Bonjour, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi. Et dans notre dernière émission, nous évoquions surtout comment Jésus avait agi, et surtout par ses paroles. Comment, dans son comportement quotidien, eh bien, il y avait toujours un discours qui amenait le salut par la foi. Mais il y a aussi autre chose dans ces évangiles, c'est comment Jésus agit, mais agit physiquement, si j'ose dire. Comment, par son corps, il agit. Il a un corps, et le père Sesboué, dont nous suivons le livre, nous dit « Un corps qui se laisse toucher et qui n'a pas peur de toucher pour guérir. » Il y a la parole, il y a aussi le geste. Ce qui renvoie au sacrement, qui associe toujours parole et geste. Et observons un peu, un des premiers gestes, c'est justement à Capharnaüm, au tout début de la vie publique de Jésus.
Oui, c'est la première guérison à Capharnaüm. C'est le premier chapitre de l'évangile de Marc. Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm, il frappe les gens par son enseignement, et en même temps, un homme qui est possédé par un esprit impur s'en prend à Jésus en lui disant « Tu es le Saint de Dieu ». Mais c'est un démon qui dit ça, et Jésus va chasser le démon de cet homme.
Donc là, une puissance qui se révèle capable de guérir, en tout cas de chasser le démon. Et effectivement, comme premier acte, c'est quand même très, très démonstratif.
Oui, et du reste, la renommée de Jésus va, à partir de là, se répandre dans toute la Galilée. Puis, tout de suite après, il va guérir la belle-mère de Simon, qui était malade, et il va guérir d'autres malades.
Donc, il enseigne, il parle, il rencontre des gens, il parle, mais aussi, il touche les gens, il agit. Et quelquefois même, à son insu, ou plutôt, les gens ont une telle confiance qu'ils se disent « Je vais le toucher », c'est une histoire de relique presque.
Presque, oui.
Alors, pour nous, mais là, ce n'est pas des reliques, puisque les gens sont vivants, dans la scène de l'Évangile.
Oui, par exemple, il y a l'histoire de cette femme qui souffre d'hémorragie, qui veut simplement toucher derrière. Elle suit Jésus, elle cherche à toucher son vêtement. Et Jésus sent quelque chose. Et cette femme est guérie.
Alors c'est assez amusant d'ailleurs parce que son entourage dit « Enfin, il y a tellement de monde que tu te dis que quelqu'un m'a touché. »
Oui.
Mais c'est pas ça.
Il a senti sans doute une force ou quelque chose qui permettait cette guérison de la femme.
Et en tout cas, là, il se place aussi sur le plan de la foi. Il l'oblige aussi à se révéler comme étant femme de foi. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, il y a aussi la résurrection de la fille de Jaïr, la première résurrection.
Oui. Alors, Jaïr, qui est un chef de synagogue, vient supplier Jésus de venir parce que sa fille est très malade. Et puis, entre-temps, on vient lui dire que sa fille est morte. Et il pense que c'est plus la peine que Jésus vienne. Mais Jésus vient chez lui, il touche la main de la petite fille, la réveille en disant « Talita cum », ce qui est resté, et la petite fille se réveille.
Donc là, il y a, dans la guérison, enfin, on chasse un démon, on guérit et on remet debout, d'une certaine manière, une femme, on ressuscite. Donc là, c'est vraiment partout un message de vie, la vie qui doit l'emporter sur la mort, la vie qui doit l'emporter sur la maladie, la vie qui l'emporte sur le mal-être. Et puis il y a aussi le soin que Jésus a pour la vie quotidienne, et notamment lorsque il y a ces scènes de l'évangile où Jésus nourrit. Alors pour les uns c'est 3 000, pour les autres c'est 5 000, mais en tout cas Jésus s'en occupe.
Jésus s'en occupe, et tous les évangélistes rapportent cette scène de la multiplication des pains. C'est donc que ça a été quelque chose qui a frappé les esprits.
Oui, surtout 4 000 personnes, 5 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, ou 3 pains et 2 poissons, enfin bref, avec rien. Et c'est quelque chose, effectivement, qui reste symbolique de la profusion des dons de Jésus.
Oui.
Et quel est le sens de cela ?
Alors, c'est la tradition du peuple nourri par Dieu au désert grâce à la manne. Mais le but de ce miracle, c'est de nourrir la foule et leur montrer à la foule que Dieu est toujours plein de prévenance, dit le père Sesboué, que Dieu s'intéresse aux gens,
voilà,
à chacun.
Donc on va au-delà de la simple nourriture, Dieu s'intéresse à chacun, et véritablement il s'agit de passer de la faim de nourriture, et après tout c'est aussi important de rassasier cette faim, à la faim de vie et de vie éternelle. En tout cas, c'est ainsi que souvent c'est rapporté dans les évangiles ou interprété. Et puis, alors, ça, c'est donc pour la nourriture, mais il y a aussi le travail. Là,
oui.
C'est la séquence pêche miraculeuse.
La pêche miraculeuse. Alors, c'est, une fois de plus, Jésus s'est retiré dans la barque de Simon parce que la foule le presse de toutes parts et il parle. Et quand il a fini de parler, il demande à Simon d'aller pêcher. Mais toute la journée, ils avaient pêché pour rien, ils n'avaient rien pris. Mais sur la parole de Jésus, ils vont jeter les filets et ils ramènent des quantités de poissons.
C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est à partir de cette époque, à partir de ce miracle en tout cas, que Jésus signifie à Pierre et à ses compagnons, que maintenant ils seront pêcheurs d'hommes et pas simplement pêcheurs de poissons.
Oui.
Donc là aussi, un sens très, très important où le Christ manifeste, que ce soit en mettant les gens debout, en les guérissant, ou bien en les nourrissant, ou bien en participant à leurs préoccupations, à leur travail, qu'il faut aller au-delà et que tout cela, c'est dans le sens de la vie. Nous allons faire une pause musicale et puis nous allons reprendre. Bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Les mots de la foi et nous évoquons la manière dont Jésus agit. Un des points qui est important et qui a été retenu seulement par Jean, c'est la scène du lavement des pieds.
Oui, alors cette scène du lavement des pieds, elle se situe à un moment où Jean nous dit que Jésus a pris pleinement conscience du moment. C'est-à-dire qu'il va bientôt mourir et être donné en pâture à la loi des Romains ou des Juifs. Et dans l'évangile de Jean, ça remplace le récit de l'Eucharistie.
Ça veut dire que c'est très important et ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui nous donne cette image qui est célébrée tous les ans au Jeudi Saint, qui est reprise, on en fait mémoire. Le Jeudi Saint, c'est revisité par tous les hommes d'Église, par l'Église au service des hommes, donc. Finalement, ça pourrait être anodin, et ça ne l'est pas.
Ça ne l'est pas, parce que c'est ce que Pierre comprend. Le maître et le Seigneur veulent laver les pieds, et il prend la place de l'esclave.
Sans compter qu'à l'époque, les esclaves pouvaient refuser de laver les pieds des personnes. C'était
oui.
Un esclave pouvait... Enfin, dit-on.
Oui.
tu pas été voir. Mais, donc, Pierre refuse. Et puis, peut-être, c'est l'attitude de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a envie que d'autres s'occupent de nous-mêmes? Nous nous sentons petits lorsqu'on est obligé de s'en remettre à d'autres pour les soins intimes, pour les soins du corps. Et là, donc, Pierre partage avec nous cette attitude. Et Jésus dit, non, non, c'est très important.
Oui. Alors, il explique son geste, qui est le sommet de tous les gestes accomplis dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'est pas sûr que ses disciples comprennent. Il leur donne l'exemple en disant, ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi.
Et ce que j'ai fait pour vous, donc, c'est de vous laver les pieds. De se mettre au service les uns des autres. Alors, effectivement, c'est repris dans la tradition. Et c'est, en fait, quelque part, le commandement de l'amour.
Oui. Jésus ne demande pas de célébrer ce geste, mais de le réaliser tous les jours, le service fraternel.
Ça aussi qui est important, c'est pas simplement je reprends le geste parce que c'est un signe, mais c'est ce geste, je dois l'accomplir. C'est beaucoup plus que un simple enseignement.
Oui. Et ce geste, c'est même plus qu'un sacrement, parce que c'est ce geste qui révèle l'identité de Jésus pour nous. Il nous sauve par ce geste de service fraternel.
Et il nous demande d'entrer dans cette dynamique de service des uns et des autres. Et donc, c'est là que se joue notre salut. Alors, effectivement, lorsqu'on dit « Jésus sauve », il sauve parce qu'il a partagé toute cette vie humaine, notre vie humaine, parce qu'il se révèle être le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous fait aller plus loin, qui fait faire un pas dans la foi. Et pourtant, ce ne sont que la relation de ce qui se vit au quotidien dans un pays où on voit le semeur, les enfants, l'éveil de noces, l'embauche des ouvriers. Donc comment peut-on passer de cette vie quotidienne au signe du salut?
C'est justement parce que cet enseignement est enraciné dans le particulier qu'il est universel. Parce que nous sommes tous
confrontés à ces séquences particulières. Tous confrontés à la vie des uns des autres, des pauvres, des riches, aux relations avec les marchands. Avoir la vie agricole, avoir les arbres, les oiseaux, etc. Donc c'est cette attention et cette réalité dans le concret d'un pays bien identifié, dans une vie quotidienne bien identifiée, que Jésus vient rattraper l'homme et l'emmener partager la vie de Dieu. Donc c'est là que se joue notre salut. C'est à la fois extrêmement simple, mais cela nous fait faire un pas immense dans la foi. Et quelque part, on s'est dit, mais ça vaut pour le Proche-Orient, pour la Palestine. Et en fait, ça vaut pour tous.
Ça vaut pour tous et pour toutes les époques et pour le monde entier.
Alors, et bien évidemment, encore plus, Jésus va encore aller plus loin, puisqu'il va nous dire, eh bien, ce corps qui agit, c'est mon corps que je vais vous donner. Et c'est par l'institution d'Eucharistie qui rejoint à la fois la multiplication des pains et le lavement des pieds. Mais ça, eh bien, nous le réservons pour la prochaine fois. Chers auditeurs, bonne semaine à tous.